Parfois, la vie peut sembler injuste. Des non-croyants peuvent sembler recevoir plus de bonnes choses que des croyants. Et cela peut ébranler la vie spirituelle des croyants. Et il y a un psaume qui nous parle justement de cela. Il s'agit du psaume 73, mais je dirais 73, qui contient entre autres le verset 26, qui est un des plus beaux versets de ce psaume. Ce psaume 73 a été écrit par un dénommé Asaph. Asaph qui était un homme respecté, un homme respectable. Il était un des responsables de la louange dans le temple de Jérusalem. Et il était également l'auteur de 12 psaumes dans la Bible. Et pourtant, cet homme-là a failli s'éloigner de Dieu. Et c'est justement ce qu'il nous raconte avec franchise, avec honnêteté, dans le psaume 73. Je vais vous lire ce psaume entièrement, comme ça nous aurons une bonne image du contexte. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs. Ils parlent méchamment. Et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles. Tout en disant, « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite, selon ton plan. Tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. Amen. Dans ce psaume, Asaph pose une question qui a bien souvent été posée par des chrétiens. Si Dieu est censé bénir ceux qui croient en lui, Pourquoi des chrétiens sont-ils dans la difficulté? Et pourquoi des non-chrétiens semblent-ils parfaitement heureux sans Dieu? Asaph commence son psaume en affirmant que Dieu est bon pour Israël et pour tous ceux qui ont le cœur pur. C'est en effet une certitude, mais cela peut également renforcer notre dilemme de base. Si Dieu est bon, ne devrions-nous pas recevoir plus de bonnes choses dans nos vies? Ne pourrions-nous pas au moins recevoir plus de bonnes choses que des non-croyants, si Dieu est si bon? Asaph nous explique son dilemme dans les versets suivants. Au verset 2, il dit « Il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. » Asaph a été jusqu'au point, il a failli perdre sa foi en Dieu à cause de plusieurs choses qu'il voyait autour de lui, des choses qu'il jugeait comme injustes. Au verset 3, il dit « J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. » Remarquez qu'il n'est pas fâché contre ces gens, mais il est jaloux, c'est-à-dire qu'il souhaite avoir pour lui ce que ces gens ont. Il veut leur prospérité. Et dans le texte original, le mot ici « prospérité » est également traduit par « shalom », la paix. Et Asaph ne comprend pas pourquoi des non-croyants reçoivent la paix qui a été promise au peuple de Dieu. Plus loin, il se demande pourquoi la vie semble si douce pour ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu. Il dit que ces gens sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Alors on voit ici qu'Asaph est aveuglé, il exagère un peu. Tout être humain passe par des moments difficiles, qu'il soit croyant ou non croyant. Mais ici, il est tellement dans sa souffrance, dans sa douleur, qu'il affirme que ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu n'ont pas de souffrance. Il ne comprend pas pourquoi la vie de ces gens semble agréable et sans difficulté. Il voit que le non-croyant déclare ne pas avoir besoin de Dieu. Que les gens qui sont les plus prospères et qui vivent les vies les plus agréables sont parfois aussi ceux qui sont les plus arrogants. C'est ce qu'il dit. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, ils se moquent des autres. Le verset 7 nous dit qu'ils n'ont aucune limite, ils font ce qu'ils veulent. Ces gens orgueilleux se moquent des croyants au verset 8 et ils insultent Dieu au verset 9 et 11. Leur orgueil les a mis tellement haut qu'ils regardent les croyants et Dieu avec mépris. Le verset 10 dit que cette attitude fait évidemment du mal à ceux qui croient en Dieu. Et le verset 12 résume tout cela. Voilà comment sont ces gens, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors il faut bien l'admettre, bien des humains jalousent secrètement ceux qui sont célèbres ou financièrement à l'abri. Bien des gens, par exemple, je me faisais la réflexion récemment, bien des gens, quand on regarde les nouvelles, quand on fait des micro-trottoirs, n'aiment pas les riches. Ils ont de la peine avec ça. Et pourtant, ces gens-là jouent au loto toutes les semaines. Donc ils n'aiment pas les riches, mais en même temps, ils aimeraient devenir riches eux-mêmes. Il y a une certaine contradiction là-dedans. Si on n'aime pas les riches, on ne veut pas devenir riche. Ou alors on aime secrètement être riche et on souhaite le devenir. Et une fois qu'on est devenu riche grâce au loto, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne s'aime pas soi-même parce qu'on n'aimait pas les riches avant? C'est difficile à répondre à cette question. Juste une petite parenthèse pour dire qu'être chrétien et riche n'est pas une mauvaise chose si on utilise bien son argent. Et si on aide le royaume de Dieu à avancer sur cette terre. Merci Seigneur pour les chrétiens fortunés qui, grâce à leurs dons, peuvent faire avancer l'évangile. Comme c'était le cas d'ailleurs pour Paul qui a été soutenu financièrement par des chrétiens riches. Mais voilà, il y a une certaine jalousie qui peut s'installer. Certains croyants sont même jaloux des non-croyants qui vivent sans contrainte, qui font ce qu'ils veulent, parce que certaines personnes pensent que venir dans une église ou être chrétien, c'est s'enfermer dans une prison. Par exemple, des adolescents croyants se demandent si suivre Jésus-Christ en vaut vraiment la peine. Pourquoi suivre Jésus lorsque tous ses copains semblent très bien vivre sans Jésus? Pourquoi ne pas faire comme eux et ne plus se préoccuper de ces questions spirituelles qui parfois peuvent submerger? Je suis jeune, je suis adolescent, j'ai le temps de penser à toutes ces choses. J'y penserai plus tard. Mes copains vont très bien sans Jésus. Pourquoi aurais-je Jésus dans ma vie? Et effectivement, pour revenir au texte, au verset 13, Asaph lui-même affirme qu'il n'y a aucun avantage à suivre une vie sainte. Il commence à sombrer spirituellement lorsqu'il affirme « C'est donc en vain pour rien que je suis resté pur. C'est donc en vain que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tout cela n'a servi à rien. Je n'en retire aucun avantage. » Et au verset 14, il dit « Tous les jours, justement, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Ces souffrances durent toute la journée, et le matin suivant, lorsqu'il se réveille, de nouveaux problèmes sont apparus. Il est en souffrance, il en a marre. » Et la fin du verset 14 est le point culminant de cette souffrance et de cette perplexité d'Asaph face à la prospérité de ceux qui rejettent Dieu. Il est au plus bas à ce moment-là. Mais, heureusement il y a un mais, le processus de changement d'opinion est en marche. Au verset 16 et 17, il dit ceci. « Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre, je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Tout se remet en place dans notre raisonnement lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Lorsque nous cessons de tourner en rond dans notre tête, à ressasser les problèmes, sans chercher d'issue divine. La prospérité des non-croyants avait rempli tout l'esprit d'Asaph dans le début de ce psaume. Mais à partir du verset 16, il change. Il fait de Dieu sa préoccupation majeure. Il cesse de voir sa situation d'un point de vue uniquement humain, mais il la voit également d'un œil spirituel. Il dit qu'il commence à réfléchir. Il avoue donc lui-même que du verset 1 au verset 14, il ne réfléchissait pas. Il était irraisonné. Asaph comprend à ce moment-là que bien que les non-croyants peuvent parfois avoir des vies terrestres plus agréables que les croyants, oui, c'est vrai, ils sont néanmoins sur une pente dangereuse. Et c'est ce qu'il nous dit clairement dans les versets 18 à 20. « Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. » Trois versets tristes. Au lieu de jalouser certains non-croyants quant à leur prospérité, nous devrions avoir une sainte horreur et une compassion pour eux quant à leur destinée finale si rien ne change. Le verset 20 dit qu'ils vivent dans une sorte de rêve, mais qui se transformera malheureusement bien vite en cauchemar. Ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus seront jugés sévèrement. Le jugement dernier, justement, est une réalité que nous ne devons pas passer sous silence. Cette perspective d'une éternité passée loin de Dieu doit justement nous amener à l'action, à la parole, à l'évangélisation. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur service que nous pouvons rendre à ces gens qui nous entourent, à ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur cœur. Dans les versets 21 et 22, Asaph après avoir réfléchi, se repent de son comportement du début du psaume. Il dit « Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. » Il est sévère avec lui-même, Asaph. Lorsqu'il convoitait la prospérité des non-croyants, Asaph était contrôlé par l'aigreur, la jalousie. Il voyait les choses d'un point de vue humain et son esprit était évidemment troublé. Ici, il se compare à une bête sans raison. Et justement, une des nombreuses choses qui nous différencie des animaux, c'est cette notion du futur. Lorsqu'Asaph se plaignait, il ne se préoccupait que des souffrances présentes, en oubliant l'éternité. C'est pour ça qu'il avait si mal. Et après avoir confessé son aigreur et sa jalousie, Asaph reconnaît que Dieu est toujours là et a toujours été là. Au verset 23-24, Asaph dit « Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite selon ton plan. Tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. » Et au verset 25, Asaph arrive finalement au point que Dieu souhaite pour sa vie lorsqu'il dit « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. » Quelle phrase magnifique. Asaph se rend compte qu'avoir Dieu de son côté est la plus belle des choses. Peu importe ce qu'ont les autres, il a Dieu. C'est la plus belle des choses. Asaph ne ressent plus de jalousie à ce moment-là parce qu'il a réalisé toutes ces choses spirituelles, cette notion d'éternité. Et c'est là qu'arrive le verset 26, un des plus beaux. « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Asaph dit que peu importe ce qui lui arrivera, peu importe ce qu'il a, Dieu sera toujours à ses côtés. Prospérité ou non-prospérité, santé ou non-santé, Dieu sera toujours là et c'est ça le plus important. Pour terminer, Asaph dit au verset 28 qu'il remplira deux responsabilités, et ce sont deux responsabilités que nous avons également en tant que croyants. La première est de tout faire pour rester proche de Dieu. Asaph dit « Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge. » Il a compris que plus nous sommes proches de Dieu, moins nous sommes jaloux de ce qu'ont les autres, et plus nous sommes heureux de ce que nous avons nous-mêmes, sans convoiter, en se contentant de ce que nous avons. Et comment acquérir cette proximité avec Dieu ? Par la prière, par la lecture de la Bible, par la louange. Merci pour la louange de qualité que nous avons eue ce matin, bien appréciée. Ce sont toutes ces choses-là, cette communion fraternelle le dimanche et les jours de semaine, qui nous aident à être proches de Dieu, à rester proches de Dieu. Et notre deuxième responsabilité est de dire aux personnes qui nous entourent tout ce qu'elles ont à gagner à croire en Jésus. En un mot, l'évangélisation. Et c'est la dernière phrase de ce psaume. Asaph dit « Et je raconterai ses œuvres ». Avant qu'Asaph ne se mette à louer le Seigneur, il avait conclu dans la première partie du psaume qu'il n'y avait aucun avantage à suivre Dieu. Vous vous souvenez ? Il était rempli d'envie, de jalousie, et donc il ne disait rien à personne. Il tournait en rond. Mais dans la deuxième partie du psaume, Asaph se rend compte de la destination finale des non-croyants. Il se rend compte que, justement, il doit leur parler, par amour, pour leur éviter cette destination. Nous-mêmes, pensons aux non-croyants qui nous entourent, pensons à nos copains d'école pour les adolescents, pensons à nos familles, à nos collègues de bureau, à nos voisins, à nos amis qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Nos collègues de bureau, si nous ne travaillons pas dans un contexte chrétien, nos collègues de bureau savent-ils que nous sommes chrétiens? Nos voisins le savent-ils? Nos amis le savent-ils? Peut-être ces gens-là ont-ils tout ce qu'il faut. Une belle maison, un bon travail, une jolie voiture, une famille, une bonne santé par-dessus tout. Merveilleux. Est-ce qu'ils ont tout de même besoin de Jésus-Christ? Oui. Oui, plus que jamais. Ils n'ont rien à y perdre. Ils ne vont pas venir s'enfermer dans une prison. Je crois que vous toutes et tous ce matin êtes venus de votre plein gré. Vous vous sentez bien, j'espère. Si vous vous sentez opprimé, emprisonné, venez en parler au pasteur, parce qu'il y a quelque chose à régler, hein, peut-être. J'espère que ce n'est pas le cas. Une église, ce n'est pas une prison. Croire en Dieu n'est pas emprisonnant. Au contraire, c'est libérant. Les gens de notre entourage qui ne croient pas encore à Jésus ont tout à y gagner. Et c'est pour ça que nous devons leur en parler. S'ils en ont besoin de Jésus, pouvons-nous leur en parler? Comme Jésus nous l'a demandé d'ailleurs. Si nous ne leur parlons pas de Jésus, si personne ne le fait, où iront-ils? Il y avait un témoignage dans l'église de Moutier d'un homme de 45 ans qui, il y a 25 ans, avait un ami. Donc cet homme était déjà chrétien, il venait déjà à l'église, mais il avait un petit peu honte, il était un petit peu gêné par rapport à son copain d'école, de dire qu'il était chrétien, de dire Jésus, et Bible et tous ces mots un peu, oula, un peu dangereux, sinon on va se faire juger. Donc il n'a rien dit à son ami, ils allaient boire ensemble dans les bars, ils sortaient ensemble et tout allait bien. Mais cet ami, un jour, a eu une crise cardiaque foudroyante, décès. Et cet ami, à l'enterrement, avait précisé, je ne sais pas comment, mais il avait précisé qu'il ne voulait pas de cérémonie religieuse, rien à voir avec Dieu. Donc on peut supposer que cet ami n'avait pas forcément donné sa vie à Jésus, même s'il est toujours possible de la donner à la dernière seconde. Mais voilà, justement, ce monsieur de l'église de Moutier, aujourd'hui encore, parle de cet épisode. Et il se dit, mais si j'avais dit quelque chose, une petite phrase, hein, voilà, quelques mots, si j'avais osé parler à mon ami, avec qui je sortais tous les week-ends, si je ne m'étais pas caché, est-ce qu'il aurait cheminé avec Dieu ? On ne le saura jamais. Mais il aurait entendu, en tout cas, le mot de Jésus. Prenons nos responsabilités lorsque l'occasion se présente, avec sagesse, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais prenons nos responsabilités. Lorsque, comme Asaph, nous changeons nos perspectives humaines contre la réalité de l'éternité, nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus nous cacher. Et nous ne pouvons plus dire, comme parfois j'entends, « Oui, mais de toute façon, c'est Dieu qui sauve. Donc, je n'ai pas besoin de parler. » Les personnes qui disent cela ne sont pas des grands évangélistes. Elles se reposent sur le fait que c'est Dieu qui sauve. Oui, amen, merci Seigneur. Mais Dieu nous a demandé de parler tout de même. Jésus nous l'a demandé, c'était d'ailleurs ses dernières paroles. C'est Dieu qui sauve, mais il nous a demandé notre parole, notre collaboration, notre amour pour les gens qui nous entourent. Nous ne pouvons pas rester assis alors que des gens sont en train de mourir sans avoir entendu parler de Jésus, au moins une fois dans leur vie. Nous qui sommes tellement reconnaissants de ce que Dieu a fait dans nos vies, personnellement, ne voulons-nous pas que Dieu fasse la même chose dans la vie des gens non-croyants qui nous entourent? Les aimons-nous assez pour leur parler de Jésus, ou avons-nous trop peur de leur réaction, de leur jugement? Oui, effectivement, il y aura des réactions, parfois négatives. Parfois, il y aura des insultes. Parfois, nous serons jugés, moqués. Mais souvenez-vous que lorsque nous évangélisons et qu'une personne réagit avec violence, c'est déjà un bon signe, parce que ça montre que la personne a été touchée quelque part, qu'elle n'est pas indifférente. L'indifférence est pire que les insultes. S'il y a des insultes qui viennent, on peut se dire, c'est le début du chemin. Ça va peut-être prendre du temps, mais au moins, il y a quelque chose qui a été touché. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais pouvoir continuer à parler avec sagesse à cette personne. Jésus est mort à notre place. Il a pris nos péchés à la croix, afin que nous ayons la possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Et c'est justement ce que nous avons commémoré avec cette sainte scène. Et ma prière est que les non-croyants de notre entourage puissent très rapidement nous rejoindre pour prendre avec nous cette sainte scène. Parce que s'ils la prennent, cela voudra dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Imaginez personnellement dans votre tête un exemple de quelqu'un très proche de vous, mais qui rejette Dieu pour l'instant. Et imaginez-le dans un mois, venir avec vous prendre la Sainte Seine. Extraordinaire, extraordinaire. C'est ma prière que les non-croyants puissent nous rejoindre et ensuite eux-mêmes parler de Jésus autour d'eux. En conclusion, Dieu est toujours avec nous, comme le dit Asaph, même dans nos souffrances, dans nos moments de doute, dans nos moments de colère aussi, d'incompréhension. Dieu nous tient dans sa main puissante et il promet de nous conseiller et de nous guider. Et lorsque notre temps sur terre sera terminé, il promet de nous prendre dans sa gloire si nous avons donné notre vie à son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons donc lui faire confiance et nous pouvons nous réjouir de cette gloire à venir. Merci Seigneur. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce psaume 73 qui nous fait du bien parce que parfois nous pouvons avoir ces moments comme Asaph où nous ne comprenons pas, où nous sommes parfois choqués, interpellés lorsque nous semblons avoir moins de choses que nos voisins qui ne croient pas en Dieu, lorsque nous sommes touchés par la maladie et que nous ne comprenons pas pourquoi cela nous arrive. Seigneur, merci parce que comme Asaph, nous pouvons nous tourner vers toi, nous mettre à réfléchir et à voir notre temps sur terre non pas comme définitif, mais comme étant un passage. Merci pour l'éternité, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre. Notre cerveau humain ne peut pas comprendre l'éternité. Nous la comprendrons une fois que nous la vivrons. Mais merci parce que tu nous as promis, si nous te faisons confiance, de pouvoir la passer avec toi. Merci Seigneur de nous aider à parler autour de nous avec sagesse, à parler de toi et à donner envie de nous rejoindre par notre exemple de vie, par notre sourire, par notre confiance. Merci Seigneur de nous aider à faire cela parce que ce n'est pas facile. Ça demande d'une grande énergie, mais tu vas nous donner cette énergie. Merci Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.